Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Très heureux de vous retrouver, alors à un horaire un peu plus habituel bien sûr pour cette émission d'aujourd'hui, samedi entre 12h et 13h, hein, comme tous les samedis entre 12h et 13h. Je dis à un horaire un peu plus habituel parce que la semaine dernière nous avions une émission en direct de la fête de la science de l'UTC. On a passé 2 heures ensemble pour parler du programme de cette manifestation qui a eu un vrai succès. Bravo aux organisateurs de la fête de la science de l'UTC. L'UTC qui ouvrait ses portes la semaine dernière, et donc avec Peggy, nous avons un petit peu parcouru le programme et eu des échanges vraiment très intéressants avec les scientifiques. Quand je dis les scientifiques, c'est toutes les personnes qui ont proposé et animé ces stands, des enseignants-chercheurs, des professeurs, ingénieurs, techniciens, étudiants, doctorants, industriels, associatifs. Il y avait quand même une variété très importante et très intéressante pour ce programme de la semaine dernière. Donc là, à partir d'aujourd'hui, on retrouve bien sûr un horaire un peu plus habituel pour Biotine. Hein, c'est tous les samedis, cette fois entre 12h et 13h. Et je salue ceux qui nous écoutent le mardi matin à 10h pour la rediffusion de cette émission. Avant que je n'oublie, je vais déjà parler de ce qui se passe demain. Demain, grand événement de Graphite, c'est la 14e bourse au disque BD et rétro gaming. 14e bourse, ça passe quand même, hein, mine de rien. C'est à Margny-les-Compiègne, au complexe Marcel Guérin. Donc c'est demain toute la journée, 9h, 18h. Et donc si vous êtes intéressé par les disques, par la BD, par le rétro gaming, eh bien vous pouvez venir à cette 14e bourse organisée bien sûr par Radio Graphite à Margny-les-Compiègne. Donc n'oubliez pas, demain vous passez et vous passerez une très très bonne journée en compagnie de Graphite, bien évidemment. C'est donc demain, 19 octobre. Nous sommes aujourd'hui samedi 18 octobre. Au niveau de l'éphéméride, alors ce qui est intéressant, c'est que quand on parle d'éphéméride dans cette émission, c'est en général des choses qui se sont passées au 18e, 19e siècle, 20e siècle. Là, on va passer en l'an 320. C'est le philosophe grec Pappus d'Alexandrie qui observe une éclipse de soleil. Et il rédige un commentaire à ce sujet sur le grand astronome. Donc déjà à l'époque, nous sommes en l'an 320, l'éclipse de soleil intrigue bien évidemment, et on a donc encore des écrits de ce qui a pu fasciner à l'époque. Plus proche de nous, 1950, le 18 octobre, l'adoption à Paris de la Convention internationale pour la protection des oiseaux qui fait apparaître la notion d'espèce menacée d'extinction. Déjà en 1950, on en parlait. Et avec donc l'idée, cette nécessité de pouvoir préserver certains habitats naturels. Et en 1963, toujours le 18 octobre, c'est une fusée française qui s'appelait Véronique. Il y a une fusée française qui s'appelait Véronique. Hein, je ne sais pas si on le sait véritablement, c'est une information déjà intéressante en tant que telle, cette fusée française qui s'appelle Véronique. Eh bien, elle lance une capsule à bord de laquelle se trouve une chatte qui s'appelle Félicette, et elle devient ainsi le premier et unique chat à effectuer un vol suborbital. Nous sommes en 1963 quand même. Donc c'est la France était aussi dans la course. Hein. On parle bien sûr très souvent des Soviétiques et des Américains, mais la France en 1963 était aussi dans la course, mais cette fois avec Félicette. Naissance le 18 octobre 1893 de Georges Osawa. Et il naît à l'époque des dérèglements sociaux causés par la réforme de Meiji, une réforme qui a basculé soudainement un Japon au mode de vie ancestral dans la modernité. Et donc Georges Osawa, il grandit au sein d'une famille très pauvre. À l'adolescence, on lui diagnostique la tuberculose, une tuberculose dont sont décédés divers membres de sa famille, et il se guérit avec la thérapeutique naturelle du docteur Ishizuka. Cette thérapie, elle préconisait la guérison des maladies sans médicaments en équilibrant le rapport entre le sodium et le potassium dans l'alimentation. Et cette méthode, elle rencontre un grand succès parce que c'était une adaptation scientifique d'une ancienne tradition médicale chinoise qui était basée un petit peu sur le principe d'équilibre du yin et du yang. Et donc Osawa, il approfondit un petit peu cette thérapeutique, et à travers ses propres recherches, eh bien il va pouvoir développer cette thérapeutique jusqu'à créer ce qu'on va appeler la macrobiotique. C'est un enseignement autant philosophique que pratique pour aider à développer le jugement, et le restant de sa vie, il se consacre à propager justement cet enseignement, convaincu que si on l'applique, les principes de cet enseignement, on peut résoudre les problèmes et les conflits de l'humanité. Et dès 1953, il commence à enseigner de façon systématique à travers le monde. Il séjourne surtout en France et en Belgique, hein, Georges Osawa, mais également dans d'autres endroits d'Europe et également aux États-Unis, donc il a quand même pas mal voyagé, et dans ces différents pays sont créés des groupes d'études et des centres permanents, il y a des périodiques, des restaurants et des usines également de produits macrobiotiques. Tout ça vient de Georges Osawa, enseignant japonais, qui fonde donc ce mouvement connu sous le nom de macrobiotique. Décès de Charles Babbage, ou Babbage peut-être parce que c'est un Britannique, mort en 1871, un 18 octobre, polymathe, mathématicien, inventeur visionnaire du 19e siècle, qui est l'un des principaux précurseurs de l'informatique. Il est le premier à énoncer le principe d'un ordinateur. En 1834, pendant le développement d'une machine à calculer destinée au calcul et à l'impression de tables mathématiques, eh bien, il a, lui, l'idée d'y incorporer des cartes du métier jacquard, dont la lecture séquentielle donnerait des instructions et des données à la machine. Et c'est ça qui est intéressant, parce que quelque part, il imagine un peu l'ancêtre mécanique des ordinateurs d'aujourd'hui. Nous sommes au 19e siècle, hein, nous sommes au 1834 quand même. C'est assez fascinant et assez intéressant. Il n'achève jamais sa machine analytique, mais il passe le reste de sa vie à la concevoir dans les moindres détails et à en construire un prototype. Il y a un de ses fils qui en construit l'unité centrale et l'imprimante en 1888. Hein, nous sommes toujours au 19e siècle. Il fait une démonstration réussie de calcul de table à l'Académie royale d'astronomie en 1908. Ça, c'est le fils. Le père, donc, Charles Babbage, il meurt le 18 octobre 1871, vers la fin de sa vie. Il déclare qu'il aurait accepté une mort immédiate à condition de pouvoir passer 3 jours, 500 ans plus tard, avec un guide scientifique pouvant lui expliquer toutes les inventions apparues depuis sa mort. Ça, c'est le rêve de beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'ils aimeraient bien revenir un peu plus tard pour voir, mais finalement, ça a donné quoi, cette évolution de la science, cette évolution de la technologie. Ben, lui, il l'avait clairement exprimé. Charles Babbage, qui est donc mort le 18 octobre 1871. Voilà, ça c'était l'éphéméride, bien sûr, de cette émission.
Jean-Noël Moreau, Guillotine. Sur Graphite.
Alors c'est une émission comme tous les ans qui va être très orientée sur la proclamation des prix Nobel. Ça a eu lieu la semaine dernière et donc voilà, tous les ans mi-octobre, on a toujours l'émission de la fête de la science et l'émission des prix Nobel. Donc on va parler des Nobel et des IG Nobel, hein, c'est ces autres récompenses de recherche scientifique un peu loufoques mais qui derrière font réfléchir. C'est ça que l'on va voir dans cette émission. Je trouvais, avant de parler de cela, de démarrer cette émission avec cet article assez intéressant de Futura Science qui nous parle de la navette Discovery qui est mise à la retraite depuis près de 15 ans. Hein, cette navette spatiale Discovery, elle est aujourd'hui visible par les visiteurs qui se rendent au Musée national de l'air et de l'espace de Washington. Mais ça pourrait changer. Il y a un sénateur texan qui s'appelait John Cornyn. Il a demandé à ce que le vaisseau spatial soit transféré dans son état à Houston, plus précisément. Et en fait, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que Houston, c'est une ville centrale dans le spatial américain. Et c'est dans son centre spatial Johnson que les astronautes se sont entraînés avant de voler avec la navette. Ce serait donc un argument pour la faire venir sur place. Mais le musée de Washington qui a en charge cette navette, qui c'est le Smithsonian Institute, eh bien, le musée de Washington, il s'inquiète de la méthode qui va être employée pour y parvenir. Après une étude menée avec la NASA, eh bien, le coût du déplacement a été estimé à près de 150 millions de dollars. C'est quand même déjà énorme pour transférer cette navette. Alors la question c'est, mais pourquoi ? Pourquoi ça coûte si cher de transférer une navette qui n'est plus opérationnelle, elle est en retraite ? Eh bien, à l'époque où les navettes Discovery retraitées avaient été transportées pour être exposées, la NASA disposait encore de véhicules bien pratiques, c'était les Boeing 747, capables de déplacer ces navettes directement sur leur dos. Mais ces engins, ces Boeing 747 n'existent plus désormais, et faute d'équivalent, il faut forcément démonter les navettes. Or, ces engins n'ont jamais été conçus pour être démontables. Leur bouclier thermique est constitué d'un assemblage de carrelage en céramique avec des couvertures thermiques, et l'ensemble des câbles qui passent en dessous est donc... Dans ces conditions, la moindre opération de démontage, elle risque d'être fatale pour l'engin. Et ça nous fait penser un peu au déplacement de la tapisserie de Bayeux, hein, on en a beaucoup parlé cet été, c'est un petit peu la même chose. Hein. Ça reste quand même trop fragile. Les États-Unis, ils ont donc leurs biens irremplaçables qui pourraient être détruits à la faveur d'un tel transport. Même si ça reste encore pour l'instant hypothétique, le président américain Donald Trump a pourtant promulgué une loi le 4 juillet dernier pour organiser un transfert de cette navette, d'une navette, parce qu'il y en a plusieurs, donc on en choisit une, jusqu'au centre spatial Houston d'ici 2027, donc bientôt. Mais la loi ne prévoit que 85 millions de dollars, il en faudrait presque le double, c'est pas suffisant, et en plus l'enjeu politique derrière cette opération est quand même assez grand. Il y a eu quand même une dénonciation un peu d'un mépris de Washington envers Houston, hein, parce que déjà c'est pas la même chose. Enfin, derrière évidemment il y a des guerres d'égo, on va dire entre guillemets. Mais pour l'instant donc ce n'est pas acté, mais le fait de déplacer cette navette Discovery ferait qu'elle pourrait pas s'en remettre parce que c'est une opération donc complexe, coûteuse et qui pourrait se révélée fatale pour le Verseau. Donc c'est un petit peu dommage, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein, le président a dit, donc on fait, on a bien connu ça pour la tapisserie de Bayeux, quelles que soient les préconisations scientifiques qui avaient été énoncées pendant plusieurs temps. Autre chose, enfin toujours dans la même thématique, parce qu'on parle toujours de la NASA, et c'est assez intéressant d'apprendre qu'il y a une technologie que la NASA a jugée indispensable pour ses opérations futures sur la Lune. Cette technologie, c'est le Wi-Fi. Alors, la question, c'est, mais pourquoi la NASA veut installer du Wi-Fi sur la Lune? C'est une vraie question. Pour rappel, dans son programme Moon to Mars, c'est-à-dire le programme de la Lune jusqu'à Mars, après les premières missions Artemis, eh bien, la NASA elle compte établir une permanence humaine sur la Lune. Il y a l'idée que si on veut aller sur Mars, on fera d'abord escale sur la Lune. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une permanence humaine sur la Lune dans une base non loin du pôle sud. C'est un peu pour concurrencer les Chinois, hein, cette histoire, parce qu'ils comptent faire la même chose. Et la question, c'est mais à quoi pourra servir le Wi-Fi sur la Lune? Cela, c'est bien sûr nécessaire pour pouvoir communiquer avec tous les objets connectés qui seront présents dans la base lunaire, les tablettes, les capteurs et bien sûr les expériences scientifiques qui vont être menées. Cela permettra aussi d'être connecté avec les véhicules et les équipements à l'extérieur comme les rovers, les atterrisseurs cargo et puis aussi une connexion avec le scaphandre d'un astronaute bien évidemment. Alors, est-ce que ce sera aussi utile que d'apporter sa box ou son modèle? Non, parce que le matériel doit pouvoir fonctionner dans un environnement spatial très contenu, très contraignant, parce que sur la Lune, il y a des écarts de température assez importants. Il fait 120 degrés le jour et moins 150 la nuit. Il n'y a qu'à voir l'écart qu'il y a entre le jour et la nuit. Une alimentation électrique également, hein, c'est assez contraignant parce que la nuit lunaire, elle dure 14 jours sur Terre. C'est un peu la raison pour laquelle la NASA envisage un réacteur nucléaire. Et puis il y a aussi l'exposition aux radiations et à la poussière lunaire qui s'incruste dans les circuits électriques. Donc c'est pas si simple que ça. La NASA a fait appel à l'entreprise Solstar Space pour construire le réseau Wi-Fi. Il s'agit d'un premier contrat de 150 000 dollars pour réaliser le design d'une solution pouvant servir aux prochaines missions habitées Artemis, ou alors des missions inhabitées avec des véhicules embarquant des instruments et des expériences de la NASA. Alors en 2018, Solar Space s'était fait connaître en envoyant le premier tweet depuis l'espace. En 2018, il y a eu le premier tweet de l'espace. C'était à bord d'une capsule New Shepard. C'était un vol qui avait été opéré par Blue Origin. Et l'entreprise, elle va aussi faire le premier test d'un point Wi-Fi en orbite basse en 2026. Donc l'année prochaine, on aura du Wi-Fi en orbite basse. En tout cas, on va faire des essais, on va voir si ça marche. Et de son côté, la NASA a déjà commencé à travailler avec notamment Nokia pour établir la 4G sur la Lune. Enfin, je sais pas, c'est quand même assez surprenant. On a encore des zones un peu blanches en France, et alors dans le reste du monde, j'en parle pas, mais alors là, on va mettre la 4G sur la Lune. Je ne sais pas. Il y a des moments où je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que vous voulez? Au moins, ça nous fait parler. Allez, un peu de musique et puis on continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Je vais y arriver. Et on va parler des prix Nobel juste après. À tout de suite.
Yo. Everybody say yeah.
Yeah.
Everybody. everybody say yo. Yo. Everybody say yeah, yeah.
Yeah, yeah.
Yo.
Yo. When I was a baby, everybody said to me that I was a voodoo child. Listen to me, baby. I'm a voodoo child. Seems I'm a little baby. Everybody tell me that I am a voodoo child. Listen to me, baby. I'm a voodoo child.
Erase my history. My roots like the roots of a tree. No bullshit, no props, just the reality. Yes, I was born under the sun shining in the sky, but when I shut my cry, bye-bye the blue, blue sky, yo. So the wind shook the trees, clouds became a grease, feathers rumbled, spain, it was pouring rain. Sunrise became a river, a torrent all over. Sunrise became a river, the round all over, which cleaned the earth and told the universe.
Van vodou, en causant nous fulce et l'outron, si clan à nous faire répéter les ausidou, la famille s'est redoutée à des bons. Ben de ouf qui s'y est vengu sur terre, per fortune, si est tombé du feu, comme un opéro de lune, des mignons de pelugo, facile, non pas bruno, et des veines, gentilien, le cantaluno.
Du Childs, c'était Papa G. Ritz sur l'antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Allez, on va commencer par le prix Nobel de physique. C'était pas nécessairement dans l'ordre chronologique de l'annonce des différents prix Nobel scientifiques de la semaine dernière, mais on va commencer par le prix Nobel de physique parce que c'est la mécanique quantique qui est à l'honneur, avec un nouveau lauréat français quand même. Et c'est quand même assez intéressant. Il y a un siècle, en 1925, alors qu'il séjournait sur l'île de Helgoland, Werner Heisenberg, entrevoit ce qui va rapidement devenir la mécanique quantique matricielle. Quelques mois plus tard, Erwin Schrödinger découvre, quelques mois plus tard, donc on est toujours en 1925, Erwin Schrödinger découvre la mécanique quantique ondulatoire en se basant sur le travail du français Louis de Broglie, qui avait introduit en 1923 l'idée qu'il devait exister des ondes de matière, tout comme il existe des particules de lumière, ce qu'on appelle les photons. La fameuse dualité onde-particule devant être universelle. Et l'année suivante, Schrödinger, il allait montrer que sa théorie avec sa fameuse équation était équivalente pour les questions de physique atomique et moléculaire de cette époque. Et donc, c'est la première révolution quantique hein, qui va conduire quelques décennies plus tard au laser, à l'électronique moderne, à l'IRM, hein, c'est les applications ensuite, parce qu'évidemment, quand on parle de mécanique quantique, c'est quand même assez compliqué, surtout par la radio. Je ne vais pas m'aventurer à aller un petit peu plus loin, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces découvertes qui datent donc il y a à peu près de 100 ans ont débouché sur des technologies que l'on comprend très très bien, le laser, l'électronique moderne, l'IRM, et pour parler que des applications les plus marquantes. Et donc, ces ondes de matière de Schrödinger, elles ont un comportement parfois similaire aux ondes lumineuses, et elles permettent en mécanique quantique l'apparition d'un phénomène curieux dont Friedrich Hund et George Gamow, dans les années 1925-1930, montrent qu'il y a des implications importantes, respectivement en chimie quantique et en physique nucléaire. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Il permet ainsi d'expliquer la radioactivité alpha, l'existence des réactions de fusion thermonucléaire de l'hydrogène dans le Soleil, et ça explique aussi d'autres applications concrètes. Cet effet tunnel quantique, il permet, dans le monde microscopique, de faire ce qui est impossible à faire avec des objets ordinaires dans le monde macroscopique. Par comparaison, ça permettrait à une balle de tennis lancée contre un mur de la traverser comme si de rien n'était. Donc on est vraiment sur des découvertes très importantes. On comprend pas encore très bien comment on passe du monde quantique au monde classique, mais il y a eu des expériences avec l'effet tunnel quantique à ce sujet, et ces expériences ont été proposées en utilisant des circuits quantiques basés sur des technologies qui ont été développées, et puis des supports également développés par pas mal de chercheurs scientifiques qui ont déjà été récompensés par des prix Nobel. Donc tout ça pour dire qu'on est quand même, parce que c'est assez compliqué hein, ce que je suis en train d'évoquer, j'en suis totalement conscient. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est déjà sur de la physique nucléaire, de la mécanique quantique, donc on est sur des sujets quand même assez pointus, qui avaient déjà été, dont les recherches ont pas mal avancé avec des scientifiques qui ont été récompensés par les plus hautes distinctions, dont par des prix Nobel. Donc on est quand même sur des domaines, c'est pas de la gnognotte, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Dans le monde quantique, on a notamment une superposition des états quantiques qui permettent à des particules d'être en deux endroits à la fois, et on est vraiment sur des notions très, très abstraites bien sûr pour, à évoquer à la radio, mais on est aussi sur des phénomènes que on anticipait, on ne comprenait pas trop, on découvre, on essaye de comprendre, on essaye d'anticiper. Enfin, je veux dire, on est vraiment sur des inconnus qui sont vraiment fascinantes parce que ça peut après, bien sûr, décliner sur pas mal de choses. Toute cette mécanique quantique, l'utilisation des circuits quantiques supraconducteurs également, c'est assez, assez important de ce qui, pour les implications pardon, qui peuvent être mises en perspective par la suite. Et donc, justement, pour revenir au prix Nobel, le prix Nobel de physique 2025 a été attribué aux physiciens John Clark, Michel Dévoré et John Martinis pour leurs travaux sur cet effet tunnel quantique macroscopique et la quantification de l'énergie dans des circuits quantiques supraconducteurs. Des expériences qui ont été menées il y a une quarantaine d'années quand même, 1983-84. Donc il y a 40 ans qu'ils ont travaillé là-dessus, qui ont donc apporté vraiment des connaissances importantes sur ce domaine-là. Et 40 ans plus tard, ils sont récompensés par un prix Nobel de physique. Il n'y a pas encore d'application révolutionnaire des ordinateurs quantique, mais la physique de ces trois nouveaux prix Nobel de physique avec ces circuits, elle est bien concrète et elle contribue peut-être en préambule à la future révolution attendue du calcul quantique. On est sur des domaines qui sont en plein essor en ce moment. On retiendra particulièrement que l'école de physique quantique française s'illustre à nouveau brillamment, puisque parmi ces trois personnes récompensées par le prix Nobel, Michel Dévoré est français, parce qu'il y a quand même eu quelques lauréats récents, hein, Anne L'Huillier, Pierre Agostini, Serge Haroche, Alain Aspect, ils ont été récompensés très récemment dans ces domaines-là. Donc la recherche française, elle est quand même d'une renommée internationale très très importante, bien évidemment. Michel Dévoré, il est donc né en 1953. Il a obtenu à l'Université d'Orsay un diplôme d'études approfondies, un DEA. C'est ce qu'on disait à l'époque, hein, c'est un peu l'équivalent d'un Master 2 maintenant. Un DEA en optique quantique. Il a fait une thèse ensuite en physique atomique et moléculaire. Il a été professeur de la chaire de physique mésoscopique. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, mais c'est au Collège de France. Donc on voit quand même le niveau d'expertise de ce monsieur. Il est membre également de l'Académie des sciences et il est toujours en poste à l'université de Yale. Michel Dévoré, donc, qui a été récompensé par le prix Nobel de physique. Félicitations à lui, bien sûr. C'était pas simple. À tous les ans, je m'impose de parler du prix Nobel de physique, mais c'est pas toujours évident parce qu'on est quand même sur des thématiques très pointues, difficiles à vulgariser parce qu'on est sur une abstraction pure et on est sur des domaines qui, comme on est dans de la recherche fondamentale. On n'est donc pas, par définition, sur de la recherche appliquée, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur d'une application concrète qui nous permettrait de visualiser un petit peu ce dont on parle. Donc là, comme c'est de la recherche fondamentale sur ces sujets-là, c'est assez difficile d'aborder le sujet, mais en tout cas, voilà, comprenez, enfin retenez que, un, dans ces trois prix Nobel de physique, il y a un Français qui a été récompensé. Deux, que la recherche française est très souvent récompensée ces dernières années dans ce domaine-là par le prix Nobel. Donc, cocorico, bravo bien évidemment à tous. Autre sujet, autre article. Alors là, je ne ferai aucune transition. Je n'ai pas envie de m'aventurer sur une transition hasardeuse. Mais on sait très bien que quand on est jeune, hein, c'est un petit peu la crise de l'adolescence. Les adolescents ont tendance à faire des plaisanteries un peu immatures et à franchir les limites sans en mesurer l'impact. Et bien, Futura Science nous rapporte qu'aux États-Unis, cela peut valoir un séjour en prison. Ce qui est un jeune homme de 13 ans en Floride, qui a un peu découvert ça à ses dépens. Il a été arrêté, ce jeune de 13 ans, pour avoir demandé à ChatGPT, je cite, « comment tuer mon ami au milieu de la classe ?» Et selon la chaîne d'information locale WFLA, parce que ça se passe à Los Angeles, avec le nombre très élevé de tueries en milieu scolaire, les Américains ne plaisantent pas vraiment avec la sécurité à l'école. Et les ordinateurs sont équipés d'un logiciel qui s'appelle Gaggle, hein, pas Google, mais Gaggle, qui surveille l'activité des élèves et notamment tout ce qu'ils saisissent au clavier ou le contenu des pages qui sont visitées. Et donc, après que cet adolescent il a écrit sa question, le logiciel il a alerté l'un des policiers affectés à l'école. La police a arrêté l'adolescent. Une vidéo publiée par NBC le montre menotté et escorté hors de l'école. Il a expliqué que c'était juste une blague, qu'il souhaitait troller son ami. Ok, très bien. Une autre blague qui a créé une situation d'urgence sur le campus, c'est ce qu'a déclaré le bureau du shérif. Et on dit un petit peu aux parents de parler à vos enfants pour qu'ils ne commettent pas la même erreur. Cet incident, en fait, ça soulève de nombreuses questions sur les dérives de la surveillance, surtout dans un pays où la liberté d'expression est censée être sacrée, parce que jusqu'en 2023, Gaggle signalait aussi l'utilisation de termes LGBT avant de les retirer de sa liste après de nombreuses critiques. Le logiciel, en fait, il représente une véritable atteinte à la vie privée, selon l'Electronic Frontier Foundation. Et donc, tester les limites était une étape essentielle de la construction de l'identité. Mais comment les adolescents peuvent-ils se construire sous l'œil, entre guillemets, de Big Brother, où le moindre écart est criminalisé? Eh bien, être arrêté pour une simple plaisanterie risque de marquer ce garçon à vie. Aussi grave que soient bien sûr les fusillades aux États-Unis, Futura Science conclut en disant qu'une blague ne fait pas d'un enfant un meurtrier. Mais ce qui est intéressant derrière, c'est pas que l'enfant pose la question à ChatGPT, c'est qu'il derrière a quand même toute une analyse de tout ce qui est dit, écrit, relayé sur les messageries ou autres, et que l'on peut détecter telle ou telle chose. Et là, c'est très souvent le même sujet qu'on évoque dans cette émission, c'est le sujet de l'éthique dans ce domaine-là. Technologiquement, c'est assez réussi. Je ne porte pas de jugement, j'explique juste que technologiquement, on arrive de plus en plus à pouvoir détecter des choses qui apparaissent sur les réseaux, qui apparaissent pas nécessairement, parce qu'en l'occurrence ici, c'est une question posée à ChatGPT, mais ça n'a pas été divulgué, les autres ne l'ont pas vu. C'est juste un enfant qui parle à ChatGPT, ça a été aussi détecté. Donc d'un point de vue technologique, on arrive à avoir des outils assez performants. D'un point de vue éthique derrière, bah, c'est toujours les mêmes questions que l'on se pose. Est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on doit faire ? Comment on pourrait adapter, évoluer ou autre ce genre de réglementation ? Est-ce qu'il en faut ? Enfin, ce sont des vrais sujets. Et c'est des sujets qu'on n'évoque pas. Et c'est très souvent dans cette émission où on est confronté à des situations comme cela qui posent question, que la science ne peut pas résoudre ou ne peut plus résoudre parce que la science a résolu l'aspect purement technique de l'affaire. Après, il y a des décisions d'ordre, je dis éthique, au sens large, mais et juridique, enfin derrière de morale ou autre, on peut appeler ça comme on veut, qui la science n'a plus à ce moment-là de rôle dans cet aspect-là. C'est à l'homme, à l'humain dans son intégralité, d'aborder ces sujets-là. Et on voit très bien qu'en fait ces sujets ne sont pas abordés. On prend très très peu au sérieux. C'est pas l'idée, mais on n'aborde pas ces sujets. On les met de côté. Sauf que la technologie elle avance et à un moment on va peut-être se poser des questions, peut-être un peu trop tard. Là encore, je ne donne pas mon avis. Je pose juste le sujet sur la table pour que chacun puisse s'en emparer. Mais en tout cas, ça a beaucoup fait parler aux États-Unis. Il y a quelques semaines, parce que, voilà, est-ce que la sécurité suffit à justifier toutes les dérives en matière de surveillance ? C'est une question à poser et qui n'est plus de l'ordre de la science. Allez, on écoute encore un peu de musique et puis on va cette fois parler juste après du prix Nobel de chimie. Ce sera peut-être un petit peu plus simple, je vous le promets. À tout de suite.
Heavy feet are released like my tongue. Now we wind our fingertips. The shutting burns the
Focoda, c'était Schrag sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Biotine, sur Graphite.
Le prix Nobel de chimie a donc été, pardon, j'ai un petit problème de micro, le prix Nobel de chimie a été décerné, donc il y a à peu près un peu plus d'une semaine, hein, c'était le 8 octobre, il était décerné à Susumu Kitagawa, Richard Robson, Omar Yagi pour le développement de structures organométalliques. En fait, les lauréats ont reçu ce prix Nobel pour le développement d'un nouveau type d'architecture moléculaire, hein, c'est ce qu'explique le comité Nobel. Les structures qu'ils ont créées, qui sont des structures donc organométalliques, contiennent de larges cavités dans lesquelles les molécules peuvent circuler. Les chercheurs les ont utilisées pour capter l'eau de l'air du désert, extraire les polluants de l'eau, capturer le dioxyde de carbone et stocker l'hydrogène. Parmi les thèmes favoris pour le Nobel de chimie étaient aussi cités la biologie de synthèse, le séquençage de nouvelles générations de l'ADN, la peau électronique associée au sens du toucher, et pas mal de choses. Et bien donc là, on est sur ces structures organométalliques et donc on est vraiment sur des applications vraiment très très utiles, très intéressantes, qui ont permis donc à ces trois scientifiques de recevoir le prix Nobel de chimie 2025. Donc bon, vous pouvez voir, il y a quelques illustrations que l'on peut voir dans la presse de vulgarisation scientifique, évidemment. Mais voilà, on est sur des sujets aussi avec des applications intéressantes d'un point de vue industriel notamment, qui vont pouvoir être mises en application par la suite, bien évidemment. Alors, on parle des prix Nobel, mais il ne faut pas oublier les prix IG Nobel. Hein, il y a une cérémonie annuelle de ces prix qui ont eu lieu là. Enfin, la cérémonie, elle a eu lieu il y a un peu plus d'un mois, même pas. C'était le 18 septembre, donc il y a pile un mois d'ailleurs. Une occasion de plus de rire de ces recherches un peu improbables. C'est le slogan des organisateurs. Des recherches qui font rire, puis font réfléchir. C'est déjà la 35e cérémonie des IG Nobel. Mais en 35 ans, l'attitude des scientifiques qui ont un petit peu l'honneur, entre guillemets, de recevoir un tel prix a changé. Ils sont désormais nombreux à s'en réjouir. Dans un reportage paru dans la revue Nature en novembre dernier, on pouvait ainsi entendre plusieurs scientifiques heureux de pouvoir dire que ce IG Nobel avait eu un impact bénéfique sur leur carrière. Par exemple, il y avait l'ornithologue néerlandais Kees Molliker qui avait été le premier à documenter en 1895 un cas de canard mâle qui essayait de s'accoupler avec un canard également mâle mais décédé. Et donc, on était dans un cas de nécrophilie homosexuelle en termes scientifiques. Il s'attendait à ce que seule une poignée d'experts entendent jamais parler de son article. Eh bien, celui qui a donc reçu l'IG Nobel de biologie en 2003, eh bien, ça allait le propulser dans la célébrité. Il a ensuite publié un livre de vulgarisation en se faisant appeler le gars des canards. Il a donné une conférence TED sur les conférences scientifiques très répandues et à la notoriété vraiment importante. Mais en plus, il a vu son travail être récompensé parce qu'il y a d'autres biologistes qui se sont mis à lui envoyer des récits similaires chez d'autres espèces animales. Il a ainsi pu constituer une large compilation de cas de ce comportement animal particulier. Il est même devenu un membre du jury des IG Nobel et son cas préféré, c'est un duo de chercheurs qui s'était déguisé en ours polaire pour observer les réactions des rennes de l'Arctique. Un autre exemple de scientifique dont ça a changé la carrière, c'est notamment la Britannique Mina Lyons. Elle avait reçu l'IG Nobel de psychologie en 2014 pour son travail sur le fait que les gens qui restent éveillés très tard sont en moyenne plus fiers d'eux-mêmes, plus manipulateurs et plus psychopathiques. Et bien, ça s'est avéré excellent, dit-elle dans Nature, pour sa participation publique. Ces prix sont inspirants, dit-elle, et j'espère que cela va inspirer les jeunes générations à se diriger vers les sciences. Il existe une personne qui a à la fois remporté un prix Nobel et un prix IG Nobel, c'est Andrew Game, professeur de physique à l'université de Manchester, au Royaume-Uni, Nobel de physique en 2010. Il était coléréen notamment pour l'extraction du graphène. Eh bien, il avait 10 ans avant reçu l'IG Nobel pour l'utilisation d'un aimant pour maintenir une grenouille dans les airs. À l'époque, il avait hésité à aller chercher le prix, craignant un impact négatif sur sa carrière encore jeune. Ben non, finalement, il a reçu le prix Nobel 10 ans après. Avec le temps, le fondateur des IG Nobel, Marc Abraham, s'en est venu à développer un solide réseau de vrais Nobel qui acceptent de venir remettre le prix lors de la cérémonie. Une façon peut-être de récupérer un peu les plaintifs. Donc il y a bien des exemples de personnes qui ont reçu un IG Nobel, hein, c'est ces recherches un peu loufoques, et qui ensuite, ça n'a pas freiné du tout leur carrière. Alors, quel est le palmarès cette année des IG Nobel? C'est vraiment la question, c'est ça qu'on attend. Donc, c'était à Boston. Le prix de la littérature, c'est un médecin américain, William Bean, aujourd'hui décédé. Il a mesuré avec une patience remarquable la croissance de ses ongles pendant 35 ans. Il a calculé que ceux-ci poussaient de 0,119 mm chaque jour. Ses observations montrent que la croissance des ongles n'est pas influencée par les saisons. Alors, est-ce que c'est bon à savoir ou pas? On n'en sait rien. Le prix de nutrition, c'est l'Agama agama, c'est une espèce de lézard qui vit en Afrique. Il se nourrit principalement d'insectes, mais des scientifiques du Nigeria, du Togo, de l'Italie et de la France, ils ont observé que dans une station balnéaire du Togo, ces reptiles, hein, ces espèces de lézards qu'on appelle l'Agama agama, ils avaient un faible pour la pizza. Voilà, c'était ça leur recherche. Et ils ont quand même poussé un peu plus loin les investigations, parce que finalement, la pizza préférée, c'est la 4 fromages pour ce lézard géant, lézard vivant, pardon. Il n'est pas géant, mais il vit en Afrique. Le prix de pédiatrie, c'était de savoir ce qui se passait lorsqu'une mère qui allait consomme de l'ail. Eh bien, il y a eu des scientifiques américains qui ont travaillé là-dessus. Les bébés restent plus longtemps au sein et ils boivent davantage lorsque le lait il a cet arôme particulier. Le goût atteint son pic 2 heures après l'ingestion de l'ail par la mère. Donc voilà, bon à savoir, manger de l'ail, comme ça le bébé boira plus de lait. Le prix de biologie, eh bien, ça concerne les piqûres de mouches qui perturbent la vie des vaches. Lorsqu'elles sont assaillies, elles broutent moins, elles se déplacent moins. Et plutôt que de recourir aux insecticides, il y a des scientifiques japonais qui se sont demandé si les vaches seraient piquées si elles étaient peintes comme des zèbres. Donc il y a 3 groupes qui ont été comparés. Il y a un groupe témoin, donc il n'y a pas eu de peinture. Hein. Les vaches, elles étaient normales. Des vaches avec des stries noires seulement. Et il y a un groupe qui a été peint comme des zèbres en noir et blanc. Et le verdict, eh bien oui. C'est-à-dire que les vaches qu'on avait peintes en zèbres, elles se font bien moins piquer que les autres. Non, mais... Pardon. Quel est l'intérêt de cette histoire? Franchement, bon ben voilà. C'est bon à placer dans une conversation, en fait, quelque part. Et voilà, il y a donc des scientifiques japonais hein, qui ont peint des vaches, et si on les peint en zèbre, elles sont moins piquées par les mouches. Ok, prix de la paix, IG Nobel de la paix, des scientifiques néerlandais, britanniques et allemands ont voulu vérifier un vieil adage. L'alcool aide-t-il vraiment à parler une nouvelle langue? Eh bien, une 50aine de volontaires d'Allemagne qui ont appris le néerlandais depuis peu, ils ont relevé le défi en buvant une petite quantité d'alcool, l'équivalent d'une bière à 5 degrés. Résultat, les participantes et les participants ayant bu de l'alcool avaient une meilleure prononciation que ceux et celles qui ont été restés sobres. Et les scientifiques, ils tiennent à souligner qu'une consommation d'alcool plus grande n'a possiblement pas d'effet bénéfique. La modération a donc meilleur goût. C'est pas dire que plus vous buvez de bière, mieux vous parlez avec l'accent néerlandais. Non, ça s'arrête à un moment. Et c'est donc le prix de la paix. Et le prix de l'aviation, c'est encore une histoire d'alcool, mais cette fois-ci chez les chauves-souris. Il y a des scientifiques qui ont étudié l'effet de l'éthanol sur une chauve-souris, notamment la roussette d'Égypte, une chauve-souris frugivore, hein, qui mange donc des fruits et qui vit en Afrique. Elle peut parfois consommer des fruits trop mûrs, riches en éthanol. Et les résultats ne sont guère surprenants. Les chauves-souris qui ont ingéré de l'alcool dans ces fruits, elles volent moins bien d'un point à un autre que leurs congénères qui n'ont pas mangé ces fruits trop mûrs, riches en éthanol. Donc, ils ont fait des essais. Ils ont bien constaté que la chauve-souris qui mangeait un fruit un peu trop mûre, eh bien, elle était un peu saoule et donc elle devait souffler dans le ballon et on lui a retiré peut-être 3 points de permis, j'en sais rien. C'était voilà, le résultat des IG Nobel. Hein. C'est un petit peu ces esprits scientifiques pour des recherches un peu loufoques, mais des vraies recherches. Il hein. faut bien comprendre que derrière, il y a eu des vraies recherches qui ont été faites. Alors bien évidemment, il ne faut pas s'arrêter au premier aspect de ces expériences et ben, vous avez dans différents journaux, dans différents médias, ils ont parlé des IG Nobel et on s'arrête un petit peu sur le premier aspect. Il faut voir qu'il y a très très souvent dans ces cas-là des applications concrètes. C'est pas uniquement anodin, c'est pas uniquement loufoque. Il y a pas mal d'applications qui sont ou des thérapies qui ont été mises en place grâce aux recherches récompensées par ces IG Nobel. On écoute un dernier titre parce que c'est déjà bientôt la fin de cette émission et on va parler du prix Nobel de médecine.
C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées. Les médias sous le roi, mon peuple articulé d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sang élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid. Qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, aux armes, etc. Que veut cette horde de militaires, de traîtres et de rois conjurés, quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics, soldats, mercenaires, alors qu'on est tous étrangers aux armes, aux armes. S'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas, pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance, parfois, liberté, liberté chérie, ceux qui ont la thune n'ont que l'odeur, amour sacré de la patrie et la fraternité se meurt, et la fraternité.
Aux armes, Mélismel sur l'antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Il ne nous reste plus beaucoup de minutes pour parler de, notamment du prix Nobel de médecine qui a été annoncé donc également la semaine dernière. Prix Nobel de médecine 2025 attribué à Marie Brunko, pardon, Fred Ramsell et Shimon Sakaguchi. Tous les trois pour, c'est pas facile, hein, je suis désolé, tous les trois pour leur découverte majeure sur la tolérance immunitaire périphérique. En fait, leurs travaux ont permis de comprendre comment le système immunitaire distingue les cellules du corps des agents pathogènes, ce qui évite ainsi les attaques auto-immunes. C'est une avancée fondamentale qui ouvre la voie à de nouvelles thérapies contre les maladies auto-immunes, certains cancers et aussi les rejets de greffe. Depuis les années 80, les scientifiques savent qu'une première sélection des lymphocytes T, hein, ces cellules essentielles à notre défense, eh bien une sélection se déroule dans le thymus. Le thymus, un petit organe situé au-dessus du cœur. Et donc, chaque lymphocyte T est testé. S'il risque de reconnaître nos propres cellules comme étant ennemies, eh bien il est éliminé. Et ce processus, qu'on appelle tolérance centrale, ça protège bien sûr l'organisme contre les maladies auto-immunes. Pourtant, certains lymphocytes T échappent à cette sélection et cela a laissé les chercheurs perplexes. Comment notre corps empêche-t-il ces cellules qui sont potentiellement dangereuses de pouvoir déclencher des réactions auto-immunes? Eh bien, la réponse allait venir des travaux de ces trois chercheurs, récompensés donc par le prix Nobel de médecine 2025, qui, ces travaux révèlent un deuxième niveau de contrôle vital pour notre immunité. Au début des années 80, Shimon Sakaguchi au Japon mène une série d'expériences sur des souris qui sont dépourvues de thymus et il constate que certaines souris développent des maladies auto-immunes violentes mais que l'injection de lymphocytes T prélevés sur des souris saines les protège. Et après plus de 10 ans de recherche, eh bien Sakaguchi identifie un type particulier de cellules qui sont les lymphocytes T régulateurs, qui sont donc capables de freiner les réactions immunitaires excessives. Ces gardiens un peu de l'équilibre empêchent en fait le système immunitaire de s'attaquer à lui-même. Et ça maintient un petit peu la paix dans l'organisme. Cette découverte, elle a bouleversé la compréhension des maladies auto-immunes dans lesquelles ces cellules, elles sont souvent déficientes. Quelques années plus tard, les deux autres, donc Marie Brunko et Fred Ramsdell, qui sont chercheurs dans une société de biotechnologie américaine, ils ont identifié un gène indispensable au développement des lymphocytes T régulateurs. Et ils ont montré que des mutations de ce gène, ça programme de graves dérèglements immunitaires, notamment ce qu'on appelle le syndrome IPEX, qui est une maladie auto-immune rare qui touche les enfants. Et donc cette découverte a confirmé le rôle central de ces fameuses cellules T, de ces lymphocytes T régulateurs, et le rôle aussi central de ce gène qui a été identifié, le rôle central dans le maintien de la tolérance immunitaire. Ça ouvre bien sûr un champ entier de recherche en immunologie. Alors, les découvertes donc de ces trois chercheurs ouvrent la voie à une médecine où le système immunitaire pourrait être modulé avec précision. Dans le cancer, les chercheurs cherchent à freiner les lymphocytes T régulateurs qui protègent parfois les tumeurs, tandis que dans les maladies auto-immunes ou après une greffe, l'objectif c'est de stimuler ces mêmes cellules pour calmer les réactions immunitaires. Donc c'est l'idée de pouvoir réguler dans un sens ou dans un autre, quel que soit le cas. Des stratégies innovantes sont déjà testées. Il y a eu pas mal d'expériences menées en laboratoire et donc on a fait parler, en tout cas Shimon Sakaguchi, après l'annonce du prix Nobel, il a expliqué: je pense que cela encouragera les immunologistes puis les médecins à utiliser justement ces stratégies innovantes pour traiter les maladies immunologiques, contrôler l'immunité contre le cancer ou pour la transplantation d'organes, ou notamment aussi pour améliorer ou pour sécuriser la transplantation afin de prévenir le rejet. Donc on voit que derrière, il y a quand même des applications concrètes, fondamentales et très prometteuses. Nous espérons, il dit également, vraiment une telle extension, et si nous pouvions contribuer à ce développement, ce serait très appréciable, dit-il. Alors cette reconnaissance, elle souligne bien sûr que comprendre nos gardiens immunitaires, ce n'est pas seulement une avancée théorique, c'est un tremplin, bien sûr, pour développer des traitements plus ciblés, plus sûrs, plus efficaces, capables de protéger l'organisme dans des situations où l'équilibre du système immunitaire est crucial. Et donc là, ce sont c'est une récompense qui a été attribuée à ces trois chercheurs, hein, le prix Nobel de médecine 2025. Ils ont percé un secret fondamental du système immunitaire, un mécanisme qui était donc jusqu'ici méconnu et qui pourrait transformer notre compréhension de la santé et des maladies. C'est vraiment des applications. Donc là, c'est vrai que c'est quand même un peu plus simple, entre guillemets, d'aborder ces sujets par rapport au prix Nobel de physique de tout à l'heure. Là, on est sur des illustrations plus concrètes parce qu'on parle le plus de santé. Mais on voit très bien que, quelque part, on récompense des recherches qui datent de 30, 40 ans, mais qui ouvrent des perspectives aujourd'hui, notamment dans ce cas-là, des perspectives thérapeutiques fondamentales, nécessaires et très prometteuses, bien sûr. Voilà, c'était l'émission. Alors, tous les ans, on fait cette émission prix Nobel, ce qui est un défi à relever parce que les sujets ne sont pas toujours simples, mais ça me paraît quand même nécessaire de s'arrêter sur ces trois prix Nobel scientifiques qui sont attribués tous les ans. Voilà, et donc en l'occurrence à retenir un Français qui a reçu le prix Nobel de physique. C'est la fin de cette émission, mais oui, déjà, ça passe tellement vite. J'étais très heureux de vous retrouver sur l'antenne de Graphite. Je vous rappelle donc que demain, dimanche 19 octobre, 9h-18h, vous avez la 14e bourse au disque BD et rétro gaming à Margny-les-Compiègne, complexe Marcel Guérin. Donc, si vous voulez passer un beau moment, vous allez retrouver l'équipe de Graphite, parce que c'est Graphite qui organise cette 14e bourse au disque BD Retro Gaming. Donc demain à Margny-les-Compiègne, entrée 2 euros. C'est gratuit pour l'après-midi. Alors 2 euros avant 13h, pardon, et c'est gratuit l'après-midi et c'est gratuit pour les enfants. Une information à préciser. Et donc c'est votre radio préférée, Radio Graphite, qui organise cette bourse au disque BD et Retro Gaming. C'est dit, vous savez ce que vous faites demain et vous savez ce que vous faites samedi prochain à 12h. Et bien vous branchez sur Graphite, sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, et on se retrouvera pour continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain. À bientôt. Merci. Au revoir.